Bonjour à chacun, mes meilleurs voeux, pour ceux qu'on n'a pas encore rencontrés en ce début d'année. On est peut-être un peu plus nombreux que les autres dimanches. Et nous abordons aujourd'hui le chapitre 2 du livre d'Esther. Pour les absents de la semaine dernière, la prédication de Patrick sur le chapitre 1er devrait être disponible sur le site de l'Église. On peut se renseigner auprès de Pierre ou de Nicolas. Au cours du siècle passé, nous avons connu deux guerres mondiales. Enfin, nous en avons connu. Ma grand-mère, mes grands-mères ont connu et mes grands-parents ont connu deux guerres mondiales. Au cours de la deuxième, près de 6 millions de Juifs ont été exterminés. Ça a donné le 18 mai 48, la naissance en un jour d'un pays pour les Juifs. On trouve d'ailleurs dans le livre d'Esther, au chapitre 3, des similitudes consternantes concernant les Juifs, mais ce sera pour plus tard. Bien que Dieu ne soit pas mentionné dans le livre, c'est bien de la protection du peuple juif qu'il s'agit dans cette intrigue de palais qui aboutira à faire échouer une tentative d'extermination des Juifs et par là même à protéger la lignée davidique de laquelle devrait être issu le Messie. On estime que la date de rédaction la plus ancienne du livre d'Esther, dont l'auteur est anonyme, se situe vers 460 avant Jésus-Christ, peu de temps après le déroulement des événements rapportés, mais avant l'arrivée d'Esdras à Jérusalem, et la datation la plus récente se situe vers 350 avant Jésus-Christ, juste avant la conquête de l'Empire perse par la Grèce, en 331 avant Jésus-Christ. C'est assez particulier d'évoquer ce matin le deuxième chapitre du livre d'Esther, alors que l'Iran est actuellement en proie à la plus forte contestation du régime des Mollahs et que la personne du fils du Shah d'Iran, qui est en exil aux États-Unis depuis que son père a été chassé du pays le 16 janvier 79, la chute officielle du régime est actée le 11 février 79 avec l'installation de l'ayatollah Khomeini qui avait été bien choyé par les Français et que l'on a permis de rejoindre l'Iran pour installer un régime des Mollahs totalitaire contesté aujourd'hui. Et à l'époque où se déroulent les faits relatés dans le livre d'Esther, la Perse est un empire puissant. Le verset 1 du chapitre 1er nous dit qu'Assuérus, son nom latin, ou Xerxès, régnait sur 127 provinces depuis l'Inde jusqu'à l'Éthiopie. Et nous sommes plongés dans les affaires politiques de l'Empire avec l'organisation d'un grand banquet organisé pour les personnages importants de l'Empire. Les affaires de l'État étaient généralement traitées à grand renfort de vin, mais personne n'était forcé de boire. On peut imaginer que beaucoup en profitaient. Et les Perses avaient pour habitude de gérer les affaires de l'État avec une certaine douceur, avec un gant de velours, faire plaisir de manière à faire que tout le monde essayait d'accepter le régime. Alors, c'est placé dans de joyeuses dispositions par le vin. Après les derniers 7 jours de réjouissance, 6 mois plus, des temps plus réduits de réjouissance pour aussi le peuple local, que le roi fit appeler la reine Vasti par ses eunuques afin qu'elle se présente devant lui, coiffée de sa couronne royale pour montrer sa beauté. Elle était censée faire une entrée théâtrale devant les hommes invités à aller au combat pour l'Empire, parce que c'est une époque où il y avait des guerres, mais il y en a aujourd'hui encore. La reine refusa, et il n'était pas de coutume que les reines qui étaient censées rester dans le harem soient exposées au regard du public, même restreint, et surtout pas devant des hommes étrangers et ivres de surcroît, des proches du roi. C'était aussi censé encourager les hommes à aller à la bataille. Ce chapitre 2 du livre est en fait réservé aux adultes pour des raisons évidentes. La mention vêtue de sa couronne ne donne pas d'autres précisions, mais diverses traditions rabbiniques vont dans le sens où elle aurait dû être vêtue de sa seule couronne. J'ai trouvé un autre exemple d'une telle indignité. Quand on a lu Hérodote 1,18, on comprend ce refus. Candaule, roi de Lydie, qui veut faire admirer la beauté de sa femme, la montre nue à son serviteur Sigès. Est-ce qu'elle était censée être vêtue uniquement de sa couronne, si l'on peut dire ? Le texte ne le dit pas. Mais le fait est que la reine refusa et que les choses tourne mal pour elle. La reine Vasti a fait vaciller l'ordre établi en ne répondant pas à la demande du roi. Et il faut communiquer la disgrâce de la reine pour éviter la contagion aux autres femmes du royaume qui risqueraient de ne plus répondre aux attentes de leur mari. Chapitre 1er, verset 22, « On envoya des lettres à toutes les provinces du roi, à chaque province selon son écriture et à chaque peuple selon sa langue, ordonnant que tout homme devait être maître dans sa maison et parler la langue de son peuple. » 4 années séparent ces événements du chapitre 2. Xerxès, roi qui domine de l'Inde à la Grèce, un des plus grands empires du moment, est puissant, arrogant, capricieux, sensuel. Il a banni sa reine, qui refusait de paraître devant ses gouverneurs et ses militaires. Et Xerxès lui avait fait cette demande alors qu'il était sans doute ivre, et au terme de 6 mois de fête. Vasti aurait-elle bien été plus sage qu'Assuérus, l'autre nom de Xerxès. Et c'est alors que Assuérus, se trouvant sans reine, va organiser sur le conseil de jeunes servants une sorte de concours pour la sélection d'une nouvelle reine, une sorte de casting géant au travers de tout l'Empire, afin de trouver la plus belle fille qui devra plaire au roi. Le géant de la télé-réalité, Endemol, qui aujourd'hui porte un autre nom, aurait bien apprécié de participer à cette organisation. Nous voyons que là où il y a le pouvoir et l'argent, rien n'est impossible, et les pratiques de l'époque permettent ce genre de choses dans le monde païen. La sensualité de l'époque n'a rien à envier à la nôtre et aux excès des réseaux sociaux générateurs de scandales et d'avilissement du corps et des esprits. Je repense à l'affaire Dutroux et aux autres rumeurs de balais roses touchant les allées du pouvoir en Belgique. Suspicion du passé, il est vrai, mais les mobiles impurs n'ont pas de limite. Mais il est vrai qu'il y a heureusement plus de protection aujourd'hui. Allez savoir, on ne parle plus de grand-chose dans ce domaine. Et c'est dans ce contexte que Mardoché et Esther évoluent, et on ne peut pas dire que ce qu'on décrit dans le début du chapitre 2 soit vraiment conforme à la pensée de Dieu. Allons pas à pas en gardant à l'esprit que ce n'est pas sans raison que le livre d'Esther a eu du mal à se faire admettre dans le canon des Écritures. Comme l'a mentionné Patrick dimanche dernier, le nom de Dieu est absent dans ce livre. Ce n'est pas que Dieu soit absent. Parce qu'il agit contre les méchants et qu'il ne cautionne pas le choix de ceux qui sont, du moins au début de l'histoire, ces piètres représentants dont il ne faut pas occulter les errements. Néanmoins, nous pouvons voir Mardoché et Esther comme un improbable duo dans cette aventure royale ou course à la royauté dont ils ne mesurent pas encore la portée. Je me suis posé la question, et manifestement, je n'étais pas le premier, la remarque est ironique, ce que ces deux personnes sont venues faire dans ce concours risqué à l'élection d'une reine. Des tensions éthiques et des débats, tant parmi les exégètes juifs que chrétiens, ont débattu de la moralité de la participation d'Esther à ce concours royal païen. Dans l'esprit de la protection du peuple juif, Mardoché pressentirait-il que la position possible d'Esther pourrait être déterminante pour la survie des Juifs dans l'Empire perse ? Prudence politique, foi en la providence divine ? Possible. Ce n'est en tout cas pas par ambition personnelle. Mais c'est un fameux pari. 4 ans séparent le chapitre 1er du chapitre 2, et pendant ce temps-là, la plus vaste campagne de la Perse contre la Grèce se solde par une défaite. Assuérus a voulu venger son père Darius, qui avait été vaincu par les Grecs à Marathon en 490 avant Jésus-Christ. Cela éveillera peut-être quelque chose chez les sportifs. Et cela ne s'est pas mieux terminé cette fois encore. Il y a cette légende du messager grec Philippides qui, après avoir couru 40 kilomètres, meurt d'épuisement en délivrant son message « Nous avons vaincu ». Et cela ne s'est pas mieux terminé cette fois encore. Ça a été une nouvelle défaite. Les quelques 600 navires perses et milliers de combattants sont battus par quelques centaines de combattants grecs, et on peut comprendre la déception et la tristesse du roi. L'entourage du roi n'est plus tout à fait le même que 4 ans auparavant, et Assuérus reste préoccupé de lui-même, et les jeunes femmes continuent à être sacrifiées à son bon plaisir. Du roi, qui dans l'attente d'une reine doit se contenter de concubines. Et il regrette peut-être sa décision hâtive d'avoir renvoyé sa reine Vasti. Et les jeunes conseillers cherchent à faire plaisir au roi et à détourner sa mauvaise humeur. Un monarque irrité est toujours dangereux pour son entourage, qui d'ailleurs ne pense pas aux conséquences pour la vie de dizaines ou de centaines. On évoque 400 jeunes femmes qui vont être arrachées à leur famille pour échouer dans le harem royal et ne plus jamais en sortir. Un avenir sombre, car une seule connaîtrait l'honneur de devenir reine. Ces aspects négatifs ne sont pas mis en avant. Ce qui compte, c'est le choix d'une reine. Et à la fin du chapitre, nous verrons qu'un complot est déjoué. Prenez le livre d'Esther au chapitre 2, les versets 1 à 4. Après ces choses, lorsque la colère du roi Assuérus fut apaisée, il se souvint de Vasti, de ce qu'elle avait fait et de ce qui avait été décrété à son égard. Et les jeunes gens qui servaient le roi dirent « Qu'on cherche pour le roi des jeunes filles, vierges et belles de figure, et que le roi établisse des commissaires dans toutes les provinces de son royaume, qui assemblent toutes les jeunes filles vierges et belles de figure à Suse, la capitale, dans la maison des femmes, sous la surveillance des Gaï. Eunuque du roi et gardien des femmes, et qu'on leur donne ce qu'il leur faut pour se préparer. Et la jeune fille qui plaira au roi régnera à la place de Vasti. » La chose plut au roi, et il le fit ainsi. Tout ce qu'il veut est à sa disposition, mais une loi l'empêche de revenir en arrière. Il a rompu avec Vasti et c'est définitif. Proverbe 16, 32 dit « Celui qui est lent à la colère vaut mieux qu'un héros, et celui qui est maître de lui-même que celui qui prend des villes. L'impulsivité est mauvaise conseillère. » Les conséquences de décisions impulsives sont souvent des conséquences inattendues et désastreuses. C'est le cas dans chacune de nos vies et dans tous les domaines. Il cherche conseil auprès de jeunes conseillers, sans doute peu expérimentés et impulsifs aussi. Le gouvernement américain s'est récemment exprimé sur le choix, en cas de candidature Rassemblement national à la présidentielle française, et ça pourrait peut-être aller plus vite qu'on l'imagine avec les derniers développements politiques, que le gouvernement américain préférait de loin Marine Le Pen au gamin Bardella de 28 ans. Les jeunes conseillers lancent le grand concours des plus belles jeunes filles. Cela plaît au roi, mais qu'en est-il des circonstances de ce grand recrutement ? Rien n'est dit si elles étaient volontaires ou non. On peut craindre le pire dans un empire de cette époque. De toute façon, c'est pour atterrir dans la maison des femmes. Dieu conduit, malgré le côté infâme, inacceptable, immoral de ce concours, Dieu conduit. Il est à la manœuvre contre le méchant et veille sur son peuple. Verset 5, « Or, il y avait à Suse, la capitale, un juif nommé Mardoché, fils de Jaïr, fils de Shimei, fils de Kis, Benjamite, qui avait été transporté de Jérusalem avec les prisonniers qui avaient été emmenés captifs avec Jéconia, roi de Juda, que Nebuchadnezzar, roi de Babylone, avait transporté. Il élevait Hadassa, qui est Esther, fille de son oncle, car elle n'avait ni père ni mère, et la jeune fille était belle de taille et belle de figure. Et après la mort de son père et de sa mère, Mardoché l'avait prise pour sa fille. » Le prophète Jérémie annonce que la captivité du peuple de Juda à Babylone durerait 70 ans. Période qui s'est accomplie entre la destruction de Jérusalem et le retour sous Cyrus en 538 avant Jésus-Christ. Jérémie 25, 11 et 12 nous dit ceci, « Tout ce pays deviendra une ruine, un désert, et ses nations seront asservies au roi de Babylone pendant 70 ans. Même dans le jugement, Dieu prépare la restauration. » Jérémie 29, 10 dit, « Mais voici ce que dit l'Éternel. « Dès que 70 ans seront accomplis pour Babylone, je me souviendrai de vous et j'accomplirai à votre égard ma bonne parole en vous ramenant dans ce lieu. » En Perse, il a fallu survivre. Ils étaient captifs. La fin de l'exil interviendra sous Cyrus le Grand, roi de Perse, qui conquiert Babylone et autorise les Juifs à retourner à Jérusalem. Trois ancêtres de Mardoché sont nommés. Le rôle protecteur de Mardoché à l'égard d'Esther est mentionné deux fois. La simple mention de Kis rappelle le roi Saül. C'est important puisque Haman, l'ennemi de Mardochée, ce sera développé dans les chapitres suivants, descend d'Agag, l'ancien ennemi du roi Saül. La tradition juive place Esther parmi les trois plus belles femmes qui aient jamais existé. Hadassa signifiant myrte et Esther signifie la cachée, selon la tradition rabbinique. Esther est la nièce de Mardochée. Bien que certains commentateurs juifs suggèrent que Mardochée ait épousé Esther, mais nous n'avons pas plus de détails à ce sujet. Mardochée est un juif exilé de quatrième génération. Il a fait son trou en exil, bien intégré, et personne ne semble connaître ses origines. Esther était belle de taille et de visage. L'hébreu dit belle de forme et de visage. C'est plus explicite. Je me souviens de Mike Evans pendant un week-end de l'IBB à Everly, ça date. Il disait aux filles présentes, étudiantes, « Vous êtes des princesses. Vous êtes belles. Dieu l'a voulu ainsi. Mettez-vous en valeur. » Il ne s'agissait pas de mise en valeur vulgaire, bien évidemment. Et avec ce que dit notre texte, Esther était particulièrement belle, sous tout point de vue. Ce contexte de la cour perse me fait penser à une chanson de Michel Sardou de 1974, ça date aussi, et le titre était « Je veux l'épouser pour un soir », l'arracher à ses parents. Chanson controversée et aussi immorale que ce qui se passe à la cour perse. Cependant, il convient de se souvenir que tous les garçons n'ont pas que de nobles intentions envers les jeunes belles filles, et qu'il convient, comme parents, de mettre en garde les jeunes filles. Verset 8, « Quand la parole du roi et son édit furent connus, et que des jeunes filles en grand nombre eurent été assemblées à Suse, la capitale sous la garde d'Egaï, Esther fut aussi amenée dans la maison du roi sous sa garde, gardien des femmes. Et la jeune fille lui plut et gagna ses bonnes grâces. Il s'empressa de lui fournir ce qu'il fallait pour ses apprêts et son entretien, et il lui donna 7 jeunes filles choisies de la maison du roi, et il la plaça avec ses jeunes filles dans le meilleur appartement de la maison des femmes. Esther ne déclara pas son peuple ni sa naissance, car Mardochée lui avait enjoint de ne rien déclarer. Mais chaque jour, Mardochée se promenait devant la cour de la maison des femmes pour savoir comment se portait Esther et ce qu'on ferait d'elle. Flavius Joseph, justement, dit que 400 femmes ont été emmenées. Le verbe « laka » peut signifier « prendre par la force » et plusieurs interprètes suggèrent qu'il y a eu contrainte. On peut imaginer que le pouvoir ne tolérait aucun refus. Deux commentateurs estiment que rien n'indique qu'Esther ait été emmenée contre sa volonté. Et un autre ne se prononce pas. Cet usage sexuel, avilissant, et quelle attitude en tant que parent de ces jeunes filles, sachant quel sort leur était réservé. Esther n'a plus de parents et Mardochée veille. En tant que juif, il y a la morale biblique qui montre qu'un couple est un projet de vie et pas un soir et puis c'est terminé. Peut-être pour la plupart d'entre elles, sauf une. Cela reste un mystère que cette démarche de Mardochée et d'Esther que d'entrer dans ce cirque. Quel pari! Ils ne savent rien de ce qui va se passer. On ne parle pas de divinement avertis comme dans l'histoire de Noël. C'est bizarre. Je suis sûr que certains d'entre nous pensent « Mais Dieu veille !» Mais qu'est-ce qu'ils en savent ? Pour l'instant, le texte ne nous dit rien à ce sujet. Et quand on connaît la suite, on peut le dire. Comme dans un épisode de Columbo, où on sait dès le départ ce qui s'est passé. Mais à ce stade, rien. Hagaï, le gardien des femmes, discerne chez Esther une femme soumise, qui écoute les conseils, et ça lui plaît. Elle est privilégiée. Mais la soumission à Mardoché se fait dans une situation où l'oncle ne peut rien imposer à Esther. Et cette soumission est mentionnée en premier. Il est vrai qu'une première lecture pourrait nous porter à voir en Mardoché un homme de compromis, qui craint d'affirmer sa foi. Et la suite de l'histoire démontre le contraire. Et je ne dévoile rien aujourd'hui, c'est pour la suite. Verset 12, « Quand on arrivait pour chaque jeune fille, le tour d'entrer chez le roi Assuérus, après s'être conformé au décret concernant les femmes pendant 12 mois, car c'est ainsi que s'accomplissaient les jours de leurs préparatifs, 6 mois avec de l'huile de myrrhe et 6 mois avec des aromates et d'autres apprêts de femmes. Verset 13, alors la jeune fille entrait vers le roi, on lui donnait tout ce qu'elle demandait pour l'emporter avec elle de la maison des femmes à la maison du roi. Elle y entrait le soir et sur le matin, elle retournait dans la seconde maison des femmes sous la garde de Chasgaz, eunuque du roi, gardien des concubines. Elle n'entrait plus vers le roi, à moins que le roi n'en eût le désir et qu'elle ne fût appelée par son nom. » Tous ces préparatifs nous paraissent peut-être excessifs, mais c'est la règle d'une certaine perfection qui n'est finalement que poudre aux yeux. Le sort de chaque femme se joue en une nuit. L'angoisse de ces filles doit être grande lorsqu'elles rencontrent le roi. Ce n'est pas une lune de miel qui leur est offerte, mais une rencontre avec leur bourreau. Fox, un commentateur, parle d'une consommation ostentatoire extrême. Qu'est-ce qui se passe pour elles ? Elles ne verront plus jamais cet homme. Elles ne connaîtront plus jamais un homme. Ces femmes rentrent dans une sorte de veuvage pour le reste de leur jour. Quels risques ont pris Mardoché et Esther ? Verset 15. Quand donc le tour d'Esther, fille d'Abikaïl, oncle de Mardoché, qu'il avait prise pour sa fille, fut venu d'entrer vers le roi, elle ne demanda rien, sinon ce que dirait Hegaï, eunuque du roi, gardien des femmes. Or Esther gagnait les bonnes grâces de tous ceux qui la voyaient. Ainsi Esther fut amenée vers le roi Assuérus dans sa maison royale au 10e mois, qui est le mois de Tébet, dans la 7e année de son règne. Je m'excuse, c'est un livre historique, donc continuons. Verset 17, « Et le roi aima Esther plus que toutes les autres femmes, et elle gagna ses bonnes grâces et sa faveur plus que toutes les vierges. Il mit la couronne royale sur sa tête, et il l'établit reine à la place de Vasti. Alors le roi fit un grand festin, le festin d'Esther, à tous ses seigneurs et à ses serviteurs. Il soulagea les provinces et fit des présents selon la puissance royale. » L'empire peut se réjouir et reçoit des faveurs du monarque. Verset 19, « Or, comme on rassemblait des vierges pour la seconde fois, je vais continuer cette lecture, et Mardoché était assis à la porte du roi. Esther n'avait fait connaître ni sa naissance ni son peuple, selon que Mardoché le lui avait recommandé, car elle faisait ce que Mardoché lui ordonnait, comme lorsqu'elle était élevée chez lui. » Esther fait confiance à Hagaï, qui connaît bien les goûts du roi. Elle n'a pas besoin d'ornements excessifs. Elle est tellement jolie qu'elle n'en a pas besoin, comme peut-être d'autres femmes qui avaient besoin d'un peu plus d'ornement. Elle reste dans la simplicité. La nièce de Mardochée est belle, mais elle sait aussi plaire. Son charme a gagné tout son entourage avant de séduire le roi. Elle est discrète et respecte autrui. Cela n'est pas rien. D'autres qualités seront découvertes au fil du livre. Et elle fait montre d'une grande stabilité, d'une maîtrise d'elle-même, et le succès ne lui monte pas à la tête. Elle reste fidèle à Mardochée, même dans l'abondance après son élection comme reine. Au verset 17, nous ne devons pas voir dans l'amour du roi cet amour que le Nouveau Testament nous décrit, que l'homme doit aimer sa femme comme Christ a aimé l'Église, n'est-ce pas ? C'est un tout autre amour. Ce que nous ne voyons pas encore, c'est à quel point Dieu est à la manœuvre, Dieu qui a détourné l'ivrognerie de Xerxès, et même si Dieu est contre l'ivrognerie, il a orchestré le divorce d'avec Vasti, même si Dieu est contre le divorce. Il a orchestré la défaite de Xerxès. Il a orchestré la sélection d'Esther, même s'il est contre la polygamie, contre ce genre de concours, contre l'immoralité, contre le mariage en dehors de la foi. Et il a orchestré la présence de Mardochée pour découvrir le complot. Et il a orchestré la préservation de l'information sur un registre. Tout ceci permet que l'annihilation du peuple juif soit empêchée, ce qui se verra dans les prochains chapitres. Dieu est contre tous les génocides et contre le meurtre. Tu ne commettras pas de meurtre, mais plus particulièrement celui du peuple juif, parce qu'il y a une promesse associée à la descendance d'Abraham, d'où naîtrait un jour le Messie qui allait sauver les hommes et les femmes de leurs péchés. Et il était fondamental de préserver ce peuple. Et encore aujourd'hui, Dieu préserve son peuple parce qu'il a encore quelque chose en réserve pour l'avenir de celui-ci. Dieu conduit les événements même quand ils semblent absents. Et certains, peut-être d'entre nous, vivent des choses difficiles, des pressions, des circonstances. Parfois, on est soi-même responsable des circonstances dans lesquelles on se trouve et les choses sont difficiles. Mais Dieu ne reste pas toujours absent. Il est à la manœuvre, il fait grâce à celui qui se tourne vers lui, reconnaissant son péché et ses errements stériles. Dieu conduit l'histoire des hommes. Il conduit toutes choses et c'est difficile à comprendre parce que nous ne percevons pas tout de son dessein. Ce n'est pas un appel à nous mettre dans des situations que Dieu n'approuve pas. Et c'est clairement ce que Mardochée et Esther ont fait. Comme cette course à la couronne royale pour Esther. Nous avons bien d'autres enseignements dans le Nouveau Testament qui nous amènent à prendre une attitude de fidélité et de sainteté devant Dieu. Toutefois, le chemin est étroit et Dieu veut nous accompagner dans cette marche. Mais la situation d'Esther nous montre qu'un dessein bien supérieur à cette royauté vient se manifester. Et cela commence par ce qui termine notre passage au chapitre 2. Esther sera finalement rachetée. Dieu va accomplir le sauvetage d'Esther malgré le péché dans lequel elle s'est mise. Peut-être que parmi nous se trouve quelqu'un qui peut dire « Oui, effectivement, un jour, Dieu m'a arrêté net. » parce que j'étais engagé dans une vie sans issue, sans Dieu. Et parfois Dieu agit comme cela. Dans ce livre particulier, Dieu n'est pas mentionné, mais son intervention de fond demeure présente. Quand je regarde le monde aujourd'hui, il y a tant de choses qui choquent et qui sont incompréhensibles. Par exemple, le partage du monde. J'ai vu cette semaine un croquis d'un notable russe. Et il divisait le monde en trois parties. Le monde pour les Américains, le monde pour les Chinois, et puis le monde pour les Russes. Nous vivons aujourd'hui la bataille des empires qui renaissent. Cela se déroule devant nos yeux. Les alliances sont bousculées. L'armement est frénétique et effrayant. Les guerres et les souffrances de bien des hommes, les persécutions, tout cela appelle à la vigilance quant à ce qui nous est annoncé dans la parole de Dieu. Et le dessein de Dieu s'accomplit alors que nous ne discernons pas tout. La vigilance est de mise. La confiance aussi en Dieu. Et comme il est écrit sur ce mur devant vous, la sainteté convient à ta maison. Alors, pour faire le lien avec la prochaine prédication, je relis les versets 21 à 23 pour nous conforter dans ce dessein de Dieu qui s'accomplit. Mardoché étant assis à la porte du roi, deux eunuques du roi, d'entre les gardes du seuil, s'étant pris de colère, cherchaient à mettre la main sur le roi Assuérus. Mardoché l'ayant appris, le fit savoir à la reine Esther. Et Esther le redit au roi de la part de Mardoché. On s'enquit de la chose qui fut constatée. Et les eunuques furent tous deux pendus au bois. Certains commentateurs parlent d'empalement ou de crucifixion. Et cela fut écrit dans le livre des Chroniques devant le roi. Et rien que cela, c'est d'une importance capitale pour la suite. Parce que pour l'instant, il n'est toujours pas question du peuple juif, de la protection du peuple juif, ni de l'action de Dieu. Elle est cachée. Mardoché est présent près des appartements du roi. A-t-il été promu parce qu'Esther est devenue reine ? C'est possible. Et cela étant, les deux eunuques sont des gardes placés à l'entrée de l'appartement du roi. Certains plaident pour leur attachement à l'ancienne reine Vasti, mais rien n'est dit à cet égard. Et là, Esther fait part au roi du complot. Elle le dit de la part de Mardoché. Les complots n'étaient pas rares à l'époque, et comme on le voit, ce sont surtout les proches qui sont un danger permanent. Assuérus mourra, d'ailleurs, 14 ans plus tard, assassiné par un de ses partisans. Si Mardoché sauve le roi, il sauve surtout Esther, qui aurait souffert de la réussite d'un coup d'État contre le roi. On peut y voir Mardoché qui veille sur Esther, comme le Seigneur veille sur son peuple. Mais Mardoché ne réalise pas encore qu'il vient aussi de poser un jalon de sa propre protection. L'inscription dans le livre des Chroniques en présence du roi sera de la plus grande importance. Et Assuérus, qui est égocentrique, ne pense qu'à lui-même, avait l'habitude de remercier, de donner des cadeaux, etc. Et il n'est pas question de ça ici. Il oublie très vite celui qui lui a sauvé la vie. Et il ne semble pas le récompenser non plus. À suivre. Amen.